Ce soir, je voulais partager avec vous la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu dans ma vie et dans la vie de Magali. Magali qui est ma fille. Alors, la fidélité de Dieu, parce que quand même, c'est après un bilan de plus de 30 ans que j'ai Magali. Pardon. Et donc j'ai vu la main de Dieu, et Magali est une enfant qui est née, elle a la drépanocytose. Et en fait la drépanocytose, c'est la plupart des personnes de couleur le savent, c'est la déficience de la mélanine, et c'est l'équivalent de la leucémie. Et donc elle avait la forme la plus grave, et donc nous on a eu ça, et notre vie a toujours été jalonnée à l'hôpital, tout le temps. Et Dieu a toujours été un père pour moi, dans tous les domaines. Et aussi pour elle, quand elle a grandi. Et l'expérience que je voulais partager avec vous, c'était en 2020, la dernière que nous avons eue, qui était vraiment énorme. On sortait du Covid, et Vers le 15 juillet, par là, Magali a eu des problèmes de santé. Elle n'avait rien fait, et on s'est retrouvés à l'hôpital du jour au lendemain, et elle s'est retrouvée dans le coma. Et bon, c'était pas la première fois qu'elle faisait un coma, parce qu'elle en a fait une quand elle avait 12 ans, et là encore, Dieu nous a secourus. Et cette fois-ci, en fait, j'avais passé la journée avec elle. Je suis rentrée à la maison, on m'a appelée vers 18h pour me dire que Magali ne passerait pas la nuit et qu'il fallait que je revienne à l'hôpital. Et j'ai appelé un frère qui est médecin, que je connais, et donc je lui ai parlé, parce que le médecin, il ne savait pas ce qu'elle avait, et personne ne savait ce qu'elle avait. Et lui, il m'a dit que lui, en tant que chrétien, quand il avait un patient, il demandait au Saint-Esprit de lui montrer. Et donc, on a prié. Et moi, je suis allée à l'hôpital le soir même. Et je suis arrivée à l'hôpital. Avant de partir à l'hôpital, quand on a fait de prier, j'ai pris le temps, tranquillement. Je me suis isolée. Et j'ai recommandé Magali à la grâce de Dieu. Et puis, je suis partie à l'hôpital. Je suis arrivée à 22h. Quand je suis arrivée à 22h, et j'attendais dans le... Elle était aux soins intensifs. Et j'attendais à côté. Et il y a Manu, une fois le pasteur avait parlé, il m'a appelée, parce qu'en fait, Magali, à l'époque, elle faisait ses clips. C'est elle qui s'occupait de ses clips. Et donc, elle était en retard. Et il voulait savoir, je lui ai dit ce qui se passait. Il était très, très étonné. Et donc, il était au Calais là-bas, il a appelé Luc, pour dire à Luc, voilà, Andriana, elle est en pleine détresse, est-ce que tu peux aller avec elle à l'hôpital? Luc, il m'a appelé vers 22h30, en me proposant de venir rester avec moi, le pasteur Luc de Colomiers. Je lui ai dit non, que c'est très gentil, mais je crois vraiment que... Pardon, excusez-moi. Je crois que ce qui se passe, Dieu permet ça, je crois que je suis à la hauteur. Et j'ai dit ça à Luc, je lui ai dit parce que je m'appuie sur ce que Dieu dit. Il ne peut pas me donner une épreuve qui va me tuer. Donc, je suis à la hauteur. Et donc, il m'a laissé tranquille. Mais après, le week-end, il est passé la voir à l'hôpital. Bref, durant ce temps, quand elle était dans le coma, pendant 5 jours de coma, j'allais passer la journée avec elle. Je lui faisais écouter les cantiques, la parole de Dieu, par le portable. Et chaque fois, je priais et je demandais à Dieu, « Mais dis-moi, comment je peux faire pour l'aider ?» Et Dieu ne me disait rien. Et ça, durant 5 jours, j'allais tous les jours à l'hôpital, aux soins intensifs. Et un matin, très tôt, je priais, je pleurais. Je riais aussi en même temps. Et Dieu me dit, vers le cinquième jour, il me dit, demande la prière de l'église. Et Dieu savait le pourquoi, il me demandait de demander la prière de l'église. Parce qu'avant le Covid, moi j'avais arrêté d'aller à l'église. Et moi j'avais, je m'étais habituée à regarder aux émissions, tout ce qu'on voit sur YouTube, les émissions. Je m'étais habituée à ça. Et je dis à Dieu, mais je vais demander à qui? Et il garde le silence, et j'étais là, je cherchais dans ma tête. Je disais, mais aide-moi, parce que je ne vois pas où est-ce que je vais demander de l'aide. Et pourtant, quelques jours avant, Luc m'avait appelé. Luc était venu à l'hôpital, mais je ne voyais personne. Je cherchais dans ma tête. Et je me suis dit à Dieu, mais il va falloir que tu trouves un autre moyen pour nous venir en aide. Et Dieu a été ferme, très ferme à ce moment-là. Il m'a dit, si tu n'y fais rien, elle va y rester. Et là, je commence à pleurer. Et j'ai dit à Dieu, mais s'il te plaît, ouvre mes yeux pour que tu me montres quelqu'un. Un de tes serviteurs, une servante, qui va nous aider. Et il y a une sœur qui est venue à mon esprit. Et Chantal, la femme du pasteur. Et il était plus de 5 heures du matin. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelée sur l'instant, à 5 heures du matin. Je n'ai pas regardé l'heure. Elle n'a pas pris. Et donc, je lui ai laissé le message parce que je savais que si je m'arrêtais et que je réfléchissais, je n'allais pas le faire dans la journée. J'allais douter. Et donc, je l'ai appelée à ce moment-là. Et j'ai laissé le message. Elle n'a pas pris. Et je me rappelle bien, c'était un lundi matin. Et je suis allée à l'hôpital passer la journée avec ma fille. Et j'étais en paix. J'ai dit à Dieu, moi j'ai fait ma part. Et cette sœur, justement, on a travaillé ensemble. Je sais comment elle fonctionne. Elle n'a pas appelé lundi. Je savais qu'elle avait demandé à Dieu de lui parler. Et le mardi soir, à 19h, elle m'a appelée. Et elle me dit, Andriana, qu'est-ce qui arrive à Magali? Parce qu'elle le connaît. Et donc, je lui dis, Magali est à l'hôpital, elle est dans le coma depuis 5 jours, plus de 5 jours. Et elle dit, on va prier, elle n'a pas demandé plus. Alors, l'intervention de Dieu a commencé à ce moment-là. Le mardi soir, comme on est réunis là, le pasteur, il a prêché. Et à la fin, ils ont pris 5, parce que je suivais sur mon téléphone. On va dire, ça a duré 10 minutes. Magali, quand elle était dans le coma, entre parenthèses, elle avait une embolie pulmonaire et elle avait une insuffisance respiratoire. Elle avait le cœur qui avait été arrêté. Elle avait les reins qui ne fonctionnaient pas. Elle avait une machine qui tournait à côté. Et ce soir-là, j'ai vu la main de Dieu. L'Église a prié. 10 minutes. Ils ont prié. Le pasteur Daniel, il a présenté Magali. Ils ont prié. Ils ont clôturé la réunion. Et après, je me suis mise à genoux pour dire... Et elle avait la tension, qui était entre 5 et 7. Elle avait la température depuis plusieurs jours et ils ne s'en sortaient pas. Et quand la réunion est finie, j'ai regardé mon portable, j'ai éteint. Je me suis mise à genoux, comme tous les soirs, pour remettre ma fille entre les mains de Dieu et rentrer à la maison. J'étais en train de prier avec elle. L'infirmière est rentrée. Et elle me dit, Madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis, quoi? Elle me dit, mais la température, elle est revenue. J'ai dit, quoi? On avait la machine. Elle a dit, regardez, la tension qui était entre 5 et 7 depuis pratiquement 5 jours est passée à 11. En moins de 10 minutes, la température, elle est tombée. Et l'infirmière a dit, mais c'est bizarre, on ne lui a rien donné. Et moi, je savais qui c'est qui venait d'intervenir. Et donc, je lui ai dit que c'est Dieu. Et aussi, pendant qu'elle était à l'hôpital, j'avais dit au médecin, vous la soignez, parce que tout ça, il ne me donnait aucun espoir. Je leur ai dit, c'est pas ce que je vous demande. Je lui ai dit, vous avez le savoir, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Et donc, chaque fois, je leur disais ça. Et après, c'était miraculeux parce que les jours qui ont suivi, les chrétiens qui le savaient là-bas continuaient à prier dans leur intimité. Le jour qui a suivi, c'est son cœur qui a été restauré. Le jour qui a suivi, c'était ses reins. C'est-à-dire chaque jour, quand on faisait l'IRM, les choses se remettaient en place. Et après, ils ont enlevé l'assistante respiratoire. Et on m'a dit, madame, si vous voulez, on va l'aider à revenir à elle. J'ai dit non, laissez-la. Elle reviendra quand elle voudra. Elle va arriver. Et donc, ça a duré, 3 jours après qu'on a enlevé. Et elle est revenue un jour à elle. J'étais assise à côté. Et quand elle est revenue à elle, en fait, quand elle avait sombré dans le coma, Magali, il ne s'en était pas aperçu. Donc, elle avait eu le cerveau qui avait manqué d'oxygène. Elle doit se souvenir de rien. Elle ne sait même pas comment elle s'appelait. Et donc, moi, le visage, ça lui paraissait familier, mais c'est tout. Et donc, les médecins ont commencé à me dire, mais madame, il faut des années pour que sa mémoire, ainsi de suite. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que je connais quelqu'un. Et il va lui rendre toute sa mémoire. Et c'est vrai qu'on est sorti, elle est restée à l'hôpital 15 jours après être sortie du coma. Ça a duré 13 jours. Et elle est sortie du coma, je l'ai prise à la maison. Et quand on est arrivé à la maison, elle qui a fait des études ou en informatique, elle est forte, ou elle m'a tout appris, elle ne sait même pas ce que c'était qu'un téléphone. Elle n'avait plus de mémoire. Et petit à petit à la maison, même quand on mangeait, je mettais en face d'elle, elle se mettait en face de moi. Et donc, elle faisait les gestes que je faisais, tout simplement. Et on a tout repris comme ça, on va dire, après l'hôpital, en 3 mois, elle avait tout récupéré. Elle a passé les tests auprès des psychologues pour sa mémoire, chez les neurologues, parce que c'était très grave. Et tout le monde était émerveillé. On disait, mais c'est pas possible qu'elle ait récupéré vite. Et donc, vraiment, on a un Dieu qui est un père et qui est tout puissant et qui agit encore aujourd'hui. Et donc, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Chaque fois, je dis que Dieu m'a rendu ma fille. Parce que je n'avais pas de... quand elle était dans le coma, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire malgré que j'étais sa mère. En tant que parent, je ne savais pas... Je savais tout. Je savais tout simplement que le Dieu qui me l'avait donné était aussi capable de me la redonner tant qu'il avait encore des choses à faire pour elle. Et voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.
Merci, Adriana, pour ce témoignage. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il est capable de faire des miracles. Voilà, et puis Andriana s'est spécialisée pour témoigner dans les hôpitaux maintenant, avec les médecins, les infirmières, ils entendent parler du Seigneur, gloire à Dieu. Et bientôt, on va voir des médecins et des infirmiers venir à l'église. Amen. Voilà, on va écouter Magali du coup, qui va nous donner aussi un témoignage.
Bonjour à tous. Donc, moi, je voulais vous parler de l'après, du coup... de l'après-coma, comment les choses se sont passées de mon côté. Déjà, il faut dire que, comme ma mère l'a dit, quand je suis sortie du coma, je savais vraiment... Je savais pas faire grand-chose. Par exemple, j'étais incapable de lire l'heure sur une horloge. Et je ne comprenais même pas le système de l'heure, de pourquoi après quand il était 9h, pourquoi une heure après il était 10h. Je n'arrivais pas à comprendre ce système-là. Et du coup, ça m'a pris pas mal de temps, enfin quelques semaines pour me remettre en fait dans l'heure, parce que pendant 13 jours, je n'étais pas du tout dans le temps. Enfin, là où j'étais, il n'y avait pas de temps. Et du coup, c'était vraiment difficile pour moi de me remettre dans le temps des jours, des heures et des semaines. Mais ce que j'ai pu voir aussi, c'est que en fait, Dieu est vraiment infini et éternel. Et c'est vrai que ce qui nous dérange à un instant T, lui, il peut le régler aussi en un claquement de doigts. Et pour nous, on a l'impression que ça a duré des années ou des semaines. Et en fait, c'était presque instantané en fait, pour lui. Donc, quand j'ai commencé à reprendre un petit peu de mes esprits, on va dire, au début, je ne pouvais pas trop sortir de chez moi parce que j'étais considérée comme personne fragile. Et pour moi, c'était même déconseillé en fait, de me faire vacciner pour le Covid. Donc, j'étais en confinement pendant pratiquement un an et demi. J'ai été en confinement. Donc, je devais rester chez moi. Et après ça, il est arrivé un moment où il a fallu se remettre dans la vie active, on va dire. Donc, repartir. On a commencé déjà en repartant un peu à l'église. Faire les courses, c'était vraiment pas souvent, mais on a commencé un peu à voir du monde, on va dire, dans des lieux un peu normaux, on va dire. Et à un moment est arrivé le moment où je me suis dit qu'il fallait que je trouve du travail, mais que je ne pourrais pas forcément en trouver, puisque j'étais une personne qui... En fait, c'était compliqué d'expliquer à un employeur que, il y a quelques mois, je ne savais même pas lire l'heure. Donc, et du coup, j'ai beaucoup lutté avec ça, de dire au Seigneur, il faut que tu me trouves quelque chose qui soit vraiment pile à ma mesure, quoi, comme un costume sur mesure. Il faut que ce poste-là, il me corresponde presque uniquement à moi, quoi. Et j'ai juste refait mon CV et je l'ai mis à disposition de tous les employeurs. Je l'ai mis sur plusieurs plateformes pour que plusieurs employeurs puissent le voir et ceux qui étaient intéressés pouvaient m'appeler. Et j'ai commencé aussi une formation en ligne pour pouvoir arriver avec des nouvelles compétences, quoi. Me dire que si j'arrivais à acquérir des nouvelles compétences, je serais plus à même d'avoir un emploi après ça. Et alors que j'avais commencé ma formation et tout, j'avais fait mon planning, j'avais fait mon plan, j'avais bien fait mon plan au carré. Et il y a un employeur qui m'a appelé. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, mais c'était toujours un peu à côté. C'est mon profil ne correspondait pas forcément à ce que eux demandaient. Et du coup, il y en a un qui m'a appelé et qui m'a fait venir dans ses locaux pour qu'on ait un entretien. Et là encore, il m'a dit que le profil ne correspondait pas forcément à ce que eux voulaient, mais qu'il y avait un service dans l'entreprise qui pourrait être intéressé par mon profil. Donc, qu'ils allaient repasser le bébé un peu à l'autre service, et que si eux, ils étaient vraiment intéressés, ils me contacteraient directement. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma formation, et je me disais que tout allait bien, puisque j'arrivais vers la fin de ma formation et je me disais, ben, au moins si j'arrive à avoir un petit diplôme avec cette formation, ça, ce sera parfait, quoi. Et alors qu'il me restait encore 6 mois, puisque c'était une formation quand même qui était sur 1 an, il me restait encore 6 mois de formation, le service en question m'a appelé et ils ont voulu me rencontrer aussi. Et on s'est rencontrés et ça s'est super bien passé. Et en fait, moi, ce que j'avais demandé, c'était un travail où on pourrait me donner le temps, en fait, de me mettre en place, d'être dans un espace où qui soit bienveillant, un espace où vraiment qu'on me stresse pas trop, qu'on me pose pas trop vite, quoi. Et là, c'était, enfin, tout ce qu'il m'a proposé, en fait, c'était exactement, c'était presque la liste que j'avais donnée à Dieu quand je lui avais demandé le travail que je voulais, quoi. Et même au niveau salaire, c'était, enfin, moi, j'avais demandé quand même un salaire assez élevé pour être dans un endroit bienveillant et pas être trop stressé. Et en fait, c'était un peu, je voulais quand même bien gagner ma vie, mais pas trop vite, quoi. Et du coup, ça, enfin, on pourrait dire que ça avait pas grand sens. Mais enfin, mon employeur, il a dit, ben, ça pour nous, c'est pas, ça fait sens pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, au début, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est bien. Et je suis rentrée chez moi et. Et en fait, lui, il me proposait un poste à prendre tout de suite ou un autre poste à prendre dans quelques mois. Donc moi, je me disais, étant donné que je suis encore en formation, je vais prendre le poste dans quelques mois. Comme ça, j'ai vraiment le temps de bien faire les choses dans l'ordre, tout ça. Et en fait, bon, quelques mois sont passés. Et après, mon employeur, en fait, m'a fait signer directement un contrat. Et en fait, là, tout le planning que j'avais fait de début, il est vraiment parti, en éclats, quoi. Donc, après, c'était un petit peu stressant. Il y a eu une petite période de rush pendant un mois et demi, 2 mois, le temps de se mettre en place. Mais, enfin, bizarrement, c'était stressant. Il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. Mais pendant 3 mois, j'avais, on va dire que c'était rythmé, mais c'était pas au-delà de ce que je pouvais faire. Et Dieu m'a montré que c'est pas parce que j'étais passée par ce par quoi je suis passée que j'étais diminuée, en fait. Dieu m'a montré que j'étais, qu'il y avait pas, enfin rien n'avait changé finalement, que j'étais capable de faire ce que je pouvais faire avant, que je devais le faire avec un peu plus de sagesse, parce qu'avant, comme j'étais un peu plus jeune, je me disais que je pouvais me permettre de faire des choses un peu plus... Enfin, de sauter, par exemple, de faire des nuits blanches, des trucs comme ça, pour travailler. Donc Dieu m'a montré que il fallait que je travaille avec plus de sagesse, et autrement, mais que j'étais capable de faire autant, voire plus que ce que je faisais avant. Et c'est là vraiment que j'ai vu la fidélité de Dieu, puisque chaque jour, il me donnait vraiment une charge de travail qui n'était jamais au-dessus de ce que je pouvais faire. Et en fait, pendant un moment, ça m'a étonnée. Après, pendant un autre moment, c'est devenu comme un défi. Chaque jour, on se parlait tous les matins. On disait, OK, donne-moi de pouvoir accomplir la charge de travail de ce jour. Et j'arrivais à arriver à la fin de la journée. Mais vraiment, j'ai pu expérimenter le fait que quand Dieu nous dit de nous décharger sur lui et de prendre son joug à lui, qui est doux et léger, vraiment Dieu calcule vraiment, même dans les plus petits détails, ce que nous, on peut faire, ce qu'il va nous confier à nous, et ce que lui fait derrière. Et il n'y a pas de... C'est pas mesurable, c'est même pas comparable. Ce que nous, on peut faire, c'est si petit par rapport à ce que lui, il fait tous les jours. Et vraiment, pour ça, je veux remercier Dieu. Amen.
Merci. Merci, Magali, pour ce témoignage qui nous montre la fidélité de Dieu. Voilà, on cherche un travail, on a besoin d'une porte qui s'ouvre. Et Dieu nous donne le costume sur mesure, le travail qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, que Dieu soit béni. On va écouter un troisième témoignage. C'est Corinne qui va nous donner un témoignage.
Bonsoir tout le monde, c'est fort. Alors moi, je l'ai écrit pour me rassurer parce que je suis maîtresse d'école et que j'écris beaucoup. Mais je ne vais pas tout lire. Hein. J'ai essayé de résumer les 38 pages que j'avais écrites en 4. Voilà. Donc je voudrais m'appuyer pour commencer sur un verset de Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et donc je vais témoigner de mes premiers pas de chrétienne, donc bien avant mon baptême. Et donc, vous relatez une situation qui a été débloquée par Dieu. Voilà. Donc, moi, j'ai un rêve. Et le rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est de vivre, d'habiter à la montagne. Et nous sommes en mars 2014, donc il y a 9 ans. C'est pour ça que j'ai écrit, parce que c'est un peu loin. Et... on est au petit matin et moi, à l'heure actuelle, à ce moment-là, je vis dans les Alpes d'Haute-Provence, dans la préfecture qui s'appelle Digne-les-Bains. Et je suis là depuis février 2011 et je suis en route pour aller travailler à 40 km de chez moi, à Sisteron. Et je fréquente l'église ADD de Digne-les-Bains depuis quelques temps, depuis quelques mois en fait. Je me suis rapprochée de Dieu, je suis convertie, mais je ne suis pas encore baptisée. Et ce qui se passe, c'est que la veille de ce matin-là, j'ai reçu les résultats de ma demande de mutation interdépartementale pour changer de département, donc pour aller dans le département qui était plus haut, dans les Hautes-Alpes. Et... ben, sans surprise, les résultats ont été négatifs. C'est un tout petit département, un département rural, montagneux, 136 000 habitants. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'élèves et il n'y a pas beaucoup de maîtresses. Donc les postes ont été rares et il n'y a eu que 7 personnes qui ont eu la possibilité de rentrer dans le département. Et j'ai vraiment été extrêmement abattue et découragée. Bien que m'attendant quand même à une déception, mais... voilà, j'avais quand même mis tout mon espoir. Et ce matin-là, ben, je rumine sur cet espoir envolé lorsque une pensée que j'identifie comme ne venant pas de moi, je l'ai vraiment identifiée comme étant à l'extérieur de moi. Elle ne m'appartenait pas et elle s'impose à mon cœur. Et je comprends très vite que c'est Dieu, le Saint-Esprit. Alors, je ne mets pas le terme de Saint-Esprit à ce moment-là dans ma tête, parce que c'est mes premiers pas de chrétienne, hein, mais je comprends que c'est Dieu qui est en train de me parler, et ce qu'il est en train de me dire, cette pensée, cette proposition, elle me paraît à la fois un peu folle, mais elle me fait du bien, elle me rassure et elle me console. Et en fait, ce que je reçois, c'est que puisque tu n'as pas obtenu ta mutation, en vivant dans un département différent que celui des Hautes-Alpes, eh bien, tu vas faire le contraire. Tu vas aller t'installer, c'est un pari en fait, hein, mais tu vas aller t'installer à Gap et puis tu feras ta demande de mutation l'année prochaine, c'est-à-dire en novembre 2014. Voilà, donc du coup, je retrouve un peu de joie et j'aborde ma journée avec... soulagée en fait de ce fardeau, j'ai vraiment l'espoir qui revient dans mon cœur Et même si la démarche me paraît risquée, hein, Gap, c'est quand même à 50 km de Sisteron, où était mon poste à ce moment-là. La route, elle peut être compliquée l'hiver avec la neige. Conduire au petit matin, quand on commence la classe à 8h15, il faut y être avant d'ailleurs. Voilà, ça me paraissait un peu farfelu, un peu fou de faire cette démarche. Mais en même temps, ce n'était pas moi qui avais cette idée. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça me paraît cohérent et digne de quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui est le très haut. Alors, dans les semaines qui suivent, je n'ai pas traîné. Et parce que je suis persuadée que c'est Dieu qui est au contrôle, j'entreprends des démarches pour obtenir un logement social à Gap, car j'avais choisi de travailler à mi-temps. Et donc, la seule solution pour me loger décemment, c'était d'obtenir un HLM. Donc, on est début avril. Et je sais très bien que c'est compliqué d'avoir un HLM dans... ou que ce soit en France, mais particulièrement dans les Hautes-Alpes, puisque ben, c'est un département qui est très peuplé, et il n'y a pas tant de HLM que ça. Et puis en plus, on m'avait dit, c'est long, attends-toi à des années. Et moi, mon idée, en fait, ce que j'avais reçu du Seigneur, c'est qu'il fallait que j'aille m'installer. Donc si je ne pouvais pas obtenir de logement à Gap, en fait, ça remettait en cause en fait, ce que m'avait dit Dieu. Et donc j'entreprends quand même mes démarches. Et fin mai, contre toute attente, je reçois rapidement une première proposition. Je suis vraiment... mon cœur déborde de joie. Enfin, je vais pouvoir aller m'installer à Gap. Et puis, j'ai une collègue qui habite à Gap et qui me dit, Corinne, le quartier, c'est pas terrible. Vraiment, je te le conseille pas. C'est un quartier ancien qui est très, très grand. Et voilà, il y a mieux à Gap. Alors, je perds mon fil, excusez-moi. Je prends le risque de décliner la proposition. Voilà, c'est risqué, hein. C'est même mal vu, en fait, quand on demande à HLM de refuser. Mais voilà, j'ose. Je ne suis pas seule, je sais que j'ai avec moi. Il y a quelqu'un qui marche avec moi. Et donc, je refuse. Et 15 jours plus tard... j'ai une nouvelle proposition. Alors, il faut dire que je prie pour l'obtention de cet appartement. Et comme des frères et sœurs dans la foi m'avaient dit qu'il fallait être très précise avec Dieu, eh bien, je fais un peu comme le livre, la liste de mes envies. Et j'y vais pas avec le dos la petite cuillère. Hein. Voilà, je demande à Dieu un appartement récent, bien ensoleillé, bien isolé, puisque voilà, on est à 740 mètres d'altitude, on est dans les Alpes, il fait froid, donc il vaut mieux que l'appartement soit bien isolé pour ne pas avoir une grosse dépense d'énergie pour me chauffer. Un appartement qui ne soit pas trop grand non plus, pour ne pas que j'y passe des heures à le nettoyer, qu'il soit propre. Je demande aussi une vue sur les montagnes, qu'il soit bien situé dans un quartier qui soit agréable. Vraiment, j'y vais, hein. J'ose tout, en fait. Et donc, le 19 juin 2014, je visite cet appartement avec mon fils et j'apprends ce jour-là que l'appartement n'a que 2 ans. Voilà, c'est un appartement tout neuf. Jamais dans ma vie, je n'avais eu un appartement aussi récent. Et j'ai un coup de cœur vraiment en le voyant. Et je me dis, mais c'est au-delà de ce que j'avais demandé à Dieu. Parce qu'il y a un chauffage au sol, il y a des panneaux solaires. Je suis dans une petite résidence de 14 logements seulement. Souvent, par la suite, on m'a dit, mais on dirait que c'est une résidence de vacances. Il n'y a pas plus d'un étage, en fait. Et vraiment, Dieu m'a bénie. Je suis à 800 mètres du centre-ville et à 300 mètres du pré avec les vaches. Si bien que, voilà, il y avait tout pour me plaire. Et j'accepte cet appartement. Je dis oui tout de suite, j'achète. Enfin, pardon, on n'est pas au Monopoly. Alors, je dis oui, je prends. Et je viens m'y installer un mois plus tard, donc en juillet, fin juillet de 2014. Et donc, je renouvelle au mois de novembre ma demande de mutation pour les Hautes-Alpes. parce que je continue, donc je fais les trajets, hein, vous l'avez compris, je suis à Gap, je fais tous les jours, enfin à mi-temps, puisque je travaille à mi-temps, je fais mes 50 km en bus pour aller travailler. Je me lève très tôt le matin, je me lève à 5h25 pour commencer la classe à 8h15. Mais avec cet espoir que ça va durer qu'une année, et je renouvelle ma demande au mois de novembre 2014. Et là, je me suis dit, Dieu m'avait guidée, et je me dis, cette fois-ci, ça va passer, j'habite dans le département, donc, parce que je n'avais pas vraiment de raison jusqu'à présent, jusqu'avant mon déménagement, rien ne me laissait la possibilité de rentrer. Mais là, vu que j'y habitais, mon argument, c'était, j'habite sur place, et 50 km, c'est beaucoup. Et contre toute attente, eh bien, au mois de mars, je n'ai pas encore eu ma mutation, malgré tout. Et là, vraiment, ça a été un choc. Et je me suis dit, tout ça pour ça, mais Dieu m'a abandonnée. J'étais vraiment désespérée et fatiguée parce que, voilà, c'est même en travaillant 2 ou 3 jours par semaine, ça dépendait des semaines, se lever à 5h25, j'avais du mal à m'endormir le soir, en fait, le stress d'avoir à me lever si tôt, d'avoir la peur de rater le bus, que le bus ait un problème ou que je n'arrive pas à temps. Souvent, je courais, quand j'arrivais à la gare de Sisteron, je courais pour arriver à l'heure dans ma classe. Donc, c'était vraiment une année de stress. J'ai persévéré, en fait. J'ai demandé, en fait, une mutation, mais ce qu'on appelle chez nous le deuxième mouvement. C'est-à-dire qu'il y a la phase de mouvement interdépartemental, où là, c'est informatisé. Et puis, il y a la phase manuelle, où là, c'est les départements qui font des échanges entre eux. Et on m'avait dit, Corinne, tu as très peu de chances, en fait, de rentrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrants. Tu n'es pas prioritaire, donc attends-toi au pire. Et puis, c'est 2 jours avant les grandes vacances, je reçois un coup de fil de la direction académique des Hautes-Alpes qui me dit, c'est bon, vous êtes pris, on vous prend. Merci Seigneur, vraiment, je me suis liquéfiée, j'en revenais pas. C'était presque inattendu, hein, parce que les services d'académie allaient bientôt fermer, donc je ne m'attendais pas à être appelée à ce moment-là. Donc ça a été vraiment une grande joie et enfin j'allais pouvoir travailler où je vivais. Voilà, j'arrive un peu à la fin. Alors il faut dire qu'entre-temps, j'étais passée par les eaux du baptême. Et c'est peut-être ça aussi qui a un peu bloqué ma situation au mois de mars, parce que quand j'ai eu la réponse négative au mois de mars, j'étais toujours pas baptisée. Je m'étais rapprochée de l'église de Gap. Et donc, je suis arrivée en juillet, à partir du mois de septembre-octobre, j'ai commencé vraiment à venir tous les dimanches et à toutes les réunions d'évangélisation à l'après-midi, parfois dimanche après-midi, donc, et parfois aux réunions de prière du vendredi soir. Et fin avril, je suis passée par les eaux du baptême et j'ai enfin donné véritablement et durablement mon cœur à Jésus. Et je pense que c'est vraiment ce qui a permis de débloquer la situation. Voilà. Dernière petite précision. En mars 2018, l'appel de la montagne se fait encore plus fort dans mon cœur et j'ai encore envie d'aller plus haut. J'habite à 740 mètres d'altitude, mais j'ai encore envie de hauteur. Et je vise en fait Briançon, qui est à 1326 mètres d'altitude, qui est la ville la plus haute de France. Et je demande une mutation départementale cette fois-ci. Mon plus jeune fils allait passer le bac et il allait partir pour Aix-en-Provence. Donc j'allais me retrouver toute seule dans mon HLM avec mon chat. Et il n'y avait plus de raison de rester à Gap. Et je demande Briançon, je demande Embrun, je demande Guillestre, voilà, des villes à la montagne. Et Dieu n'a pas permis cette fois-ci. Il a fermé les portes. Il a vraiment fermé les portes. Mais parce que moi, je voulais monter toujours plus haut, vous l'avez compris, toujours plus à l'est, toujours plus près de l'Italie. Et en fait, Dieu m'a ramenée dans la plaine. Vraiment. Alors, j'étais dans les Hautes-Alpes. Là, il m'a ramenée en Haute-Garonne, plus à l'ouest, plus plat, et proche de la frontière espagnole, si on peut dire. En tout cas, plus proche que ce que je l'étais. Parce qu'il avait un autre projet pour moi. Et ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà. Et Voilà, je voudrais juste dire que c'est Dieu qui ouvre et qui ferme les portes. Même si humainement tout semble bloqué, c'est Dieu qui est au contrôle. Nous, notre part, c'est de demander, de chercher et de se mettre en règle avec lui. Et vraiment, il a fallu que je passe par les eaux du baptême. C'est ce qui me manquait, en fait. Hein. C'était le sésame pour que les prières soient vraiment exaucées. Il ne faut pas désespérer. Il entend nos prières, il les exauce. Si elles entrent dans son plan pour nos vies.
Amen. Merci Corinne pour ce témoignage. Alors, il y a les Pyrénées qui ne sont pas très loin quand même. Quand même la montagne. Hein. Ce n'est pas la même montagne. Voilà. Alors, soyons précis dans nos prières. Hein. Voilà. Quand on prie, on ne prie pas dans le flou. On demande l'appartement avec la vue. Gloire à Dieu. Allez, un dernier témoignage. Donc, c'est Sylvie qui va nous donner un témoignage maintenant.
Alors, bonsoir à tous. Moi aussi, j'ai quelques petites tustes. Hein. Alors, moi, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Il faut savoir que ça fait 10 ans maintenant que j'ai entendu, pour la première fois, le nom de Jésus. Donc, c'était un ancien collègue de mon ancien travail qui m'a parlé de Jésus pour la première fois. Donc, à l'époque, j'étais vraiment dans l'ignorance totale. Même dans ma famille, on ne parlait pas de Dieu. Enfin voilà, il n'y avait pas du tout d'aspect religieux. C'était le flou total. Et du coup, c'était une époque de ma vie où justement, je me cherchais beaucoup et je passais par des moments assez difficiles où la vie commençait sérieusement à m'abîmer. Donc avec sa grande patience, il m'a parlé de Dieu. Je ne comprenais vraiment pas tout au début, parce que c'est vrai, quand on n'est pas dedans, parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Et c'est vrai que c'est une phrase tellement courte, mais tellement importante. C'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose de facile à comprendre quand on n'est pas dans le milieu chrétien. Et c'est vrai que c'est tout un cheminement, ne serait-ce que dans le cerveau, de comprendre un peu comment fonctionne la spiritualité. Parce que j'avais certes une spiritualité, mais c'était du côté des ténèbres. J'étais plutôt dans le côté obscur et on peut dire que je servais d'autres dieux. C'était pas les bons, mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc du coup, avec sa grande patience, il m'a parlé un petit peu de ce que Jésus avait fait pour nous, tout ce qu'il avait fait, le salut, son amour, de mettre sa vie en règle aussi. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je vivais dans le péché, donc toujours pareil, on est dans une grande ignorance, donc on ne sait pas tout ce que l'on fait, en fait, on n'a pas vraiment conscience, et surtout quand on n'est pas forcément aussi stable émotionnellement. Donc petit à petit, avec le temps, en fait, cette personne qui, du coup, j'ai appris par la suite que c'était un serviteur de Dieu, m'a fait prendre conscience et m'a proposé justement de mettre ma vie en règle, hein, de prendre un autre chemin. Et bon, c'est vrai que petit à petit, j'avais vraiment le cœur au début fermé. Hein. C'était quelque chose, c'était verrouillé de chez verrouillé. Pour que ça rentre, c'était mission impossible. Mais comme quoi, rien n'est impossible à Dieu. Et petit à petit, donc, il savait que telle personne allait venir me parler de lui. Et que petit à petit, il allait disposer mon cœur pour ouvrir une porte par une porte par une porte. Et pour au final toucher mon cœur et pour que je puisse prendre pleinement conscience de ce qu'il avait fait en fait pour moi, pour nous. Et là, il se passe, pour ceux qui sont déjà avec le Seigneur, ils savent que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, quand Dieu vient toucher notre cœur, il nous remplit en fait de tout ce qui était complètement sec en nous. Ben, il nous remplit. Quand on parle de cette eau vive, c'est justement ben, voilà, cette source qui nous remplit complètement, qui limite on déborde. Avant on était triste, après on devient joyeux. C'est limite on comprend même pas ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose de très profond et puis de très personnel, parce que c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, en fait, on ne peut pas le percevoir. C'est palpable seulement à partir du moment où on le vit, je trouve, hein, en tout cas. Et c'est vrai que après tout ça, en fait, je me rends compte que Dieu en fait, dispose toutes choses à partir du moment aussi où on ouvre notre cœur. Alors, on peut rencontrer des gens dans notre vie qui vont nous parler de Jésus, mais si après notre cœur n'est pas disposé à s'ouvrir pour recevoir, parce que Dieu est là, il est tout le temps avec nous en fait. C'est nous qui sommes loin de lui. Et ça, forcément, à l'époque, je ne le comprenais pas et je ne comprenais pas grand-chose, en tout cas dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'après après les prises de conscience, il y a ce voile qui s'ouvre, il y a la vérité en fait qui est vraiment devant nous. On comprend les choses, on comprend comment ça fonctionne, on comprend aussi cette relation avec Jésus. Et du coup, tout ce qui était en fait, complètement brisé en moi, avec justement l'amour de Dieu, il m'a complètement restauré, il m'a complètement son amour en fait m'a guéri. Ce que je voudrais mettre en avant en fait, c'est justement cet amour que Dieu a pour nous et aussi l'évangélisation. On ne se rend pas compte, mais à cette époque-là, si cette personne n'était pas venue me parler de Dieu, je serais pas ici, ça c'est inévitable, mais je ne suis même pas sûre que je serais encore de ce monde, parce que j'étais vraiment abîmée. Et on ne se rend pas compte, en fait, au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est nous qui évangélisons, qui parlons de Dieu, et c'est vrai, quand on a vécu ce que j'ai vécu, c'est vrai que le peu de choses qu'on pourra dire en fait autour de nous, on ne se rend pas compte. En fait, Dieu sait ce qu'il va mettre en chacun des personnes avec qui on va parler de lui. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il conduit vraiment toutes choses, tout comme il a conduit en fait ces personnes à moi, parce qu'il y a eu ce serviteur de Dieu, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui après m'ont amené dans une église, tout ça. Enfin, c'est vraiment en fait un fil conducteur et Dieu tisse sa toile merveilleusement bien, c'est à la perfection. À un moment donné, on se rend compte que le peu qu'on pourra parler, en tout cas si on n'ose pas parler de Dieu, même si c'est juste un peu, c'est déjà quelque part cette semence qu'on mettra dans l'esprit de quelqu'un, et peut-être qu'au moment où on parlera de lui, ça rentrera pas. Mais petit à petit, il y aura une autre personne qui prendra le relais, parce que Dieu aura conduit cette personne-là dans la vie de la personne qui sera sauvée par la suite. Et vraiment, je trouve que c'est très important en fait de parler de lui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un n'avait pas parlé, ne m'avait pas parlé de lui, je serais encore plus abîmée ou peut-être plus là. Et vraiment, je voulais mettre en avant, en tout cas par ce court témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je souhaite sincèrement de ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse pour un grand nombre. Et vraiment que toute la gloire lui revienne. Merci.
Merci. Merci Sylvie. Ce témoignage que Dieu restaure les cœurs brisés, les vies abîmées, et que notre Dieu est fidèle. C'est des beaux témoignages. En passant, je vous donne aussi celui de Jean-Philippe qui m'a appelé. Il m'avait demandé de prier pour lui parce qu'il avait un entretien d'embauche lundi matin à 8h pour être formateur en électricité. Et en fait, il a eu son entretien, il a été pris et une heure après, il travaillait. On ne peut pas faire plus vite. Donc Dieu l'a béni et ça y est, il travaille comme formateur en électricité dans une structure où lui-même il a été formé, donc ils l'ont recruté. Et puis après il va être formé aussi pour cela. Mais je voulais vous le signaler en passant, comme quoi Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Ben voilà, on va prier le Seigneur. Donc suite à tous ces témoignages, On continue à prier aussi pour notre frère Jean Calvin. Vous savez qu'il est en convalescence jusqu'au 19 mai pour que Dieu le fortifie, le relève. Voilà, peut-être que deux ou trois personnes élèvent la voix et on s'attend à la grâce de Dieu. Merci pour ces témoignages, Seigneur. Nous voyons combien ta main est puissante, agissante, que tu ouvres encore des portes fermées, que tu réponds aux prières, que, Seigneur, tu permets qu'il y ait encore, Seigneur, des changements, des transformations, des guérisons intérieures. Seigneur, tu guéris aussi les corps. Merci pour ces témoignages. Ce témoignage de Magali qui a été complètement restauré par ta puissance. Merci Seigneur pour Andriana que tu as fortifié aussi pendant cette épreuve. Et nous croyons que en toi il y a des victoires, en toi il y a des bénédictions. Merci parce que tu as pourvu en toutes choses, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour nos sœurs, Seigneur, pour Corinne. Seigneur, tu as étendu ta main, Seigneur, tu l'as attiré à toi, tu as permis ce baptême, cette décision, cet engagement. Merci, Seigneur, pour cette restauration dans la vie de Sylvie. Oui, tu es un Dieu qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Nous croyons que tu vas relever aussi notre frère Jean Calvin pour qu'il soit complètement restauré. Seigneur, c'est ta volonté et nous voulons nous attendre à toi. Bénis aussi le groupe de jeunes qui va partir à Clermont-Ferrand dans ce séminaire de jeunesse, qu'il y ait des temps de visitation, que les jeunes soient touchés aussi pour ton service, pour s'engager pour toi, pour être transformés par toi. Tu vois aussi les vies des uns et des autres. Bénis tous ces jeunes qui viendront, plus de 6500 jeunes, Seigneur, que ta grâce accompagne tout ce groupe. Oui, dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi aussi pour Toulouse-Ouest, pour ce culte de dimanche, pour les âmes qui viendront, les nouvelles personnes qui seront encore là. Seigneur, nous croyons que tu veux les attirer à toi, que tu veux sauver. Oui, dans le nom de Jésus, nous t'adorons. Amen. Gloire à Dieu.